judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. Je reçois pour vous aujourd'hui Adrien Megherditsyan. Adrien est un primatologue de renommée internationale, chercheur au CNRS en psychologie comparée. Il a eu la médaille de bronze CNRS en 2011, spécialiste de la communication gestuelle et de ses bases cérébrales. Je le cite, « Je m'interroge sur les implications du geste dans l'évolution du langage. » Adrien Megherditsyan est docteur en sciences cognitives. Il fait un post-doc au Sénégal sur la piste des chimpanzés. Il intègre en 2012 l'équipe dirigée par Joël Fagot à la faculté Saint-Charles à Marseille. En 2016, il participe au projet Gestimage. En 2017, il obtient le prix Claude Paoletti de l'Institut des sciences biologiques du CNRS. Mais je vais m'arrêter là, car Adrien a beaucoup à nous dire. Je vais te laisser la parole très rapidement, mais auparavant, je veux te remercier du temps que tu nous consacres. Merci beaucoup Adrien, et puis donc à toi la parole.
Bonjour et merci beaucoup de l'invitation, je suis vraiment ravi de pouvoir communiquer un peu sur ce qu'on fait. Dans le cadre d'une émission de radio, c'est rare en fait, je crois que c'est la première fois que je suis à la radio.
C'est un plaisir pour moi.
On a l'habitude des fois de vulgariser un peu dans des conférences, mais l'opportunité est rare, donc je te remercie vraiment. Donc voilà, moi je que ça fait pas mal d'années maintenant, ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à faire de la primatologie, c'est un vieux rêve de gamin. De toute façon, les gamins...
La primatologie, c'est quoi?
Alors, il y a un sens assez vaste, c'est tous ceux qui étudient le primate. Ça peut inclure le primate humain, parce que l'homo sapiens, c'est un primate humain. Maintenant, on précise à chaque fois, d'ailleurs. On dit primate non humain, quand il s'agit de travailler sur les singes, et primate humain, quand on travaille sur, notre espèce, quoi. Et donc, tous ceux qui s'intéressent, qui étudient les primates, peuvent se déclarer primatologues, sachant que je connais des artistes aussi primatologues qui ont travaillé, fait toute leur carrière sur les primates. Donc voilà, on est une belle communauté, et en France aussi, on est une petite société.
Alors, quel est l'objet de tes recherches et...
Oui, donc moi, je suis, comme je disais, c'est un vieux rêve de gosse, en fait. Parce que moi, je voyais ça qu'à travers la télé, ou les documentaires, quand j'étais petit. Ces femmes qui partaient comme Jeanne Goudal, Diane Fossé, qui partaient sur la piste des chimpanzés à observer les singes, je trouvais ça vraiment fascinant. Et l'opportunité s'est présentée quand il fallait chercher et trouver son premier stage à la fac, en Master 1. À l'époque, ça s'appelait la maîtrise, où il fallait faire un stage dans un laboratoire de recherche. Et moi, je connaissais absolument pas le milieu académique, rien. Je pensais que c'était qu'à la télé qu'on voyait des gens travailler sur les primates, quoi. Ça n'existait pas, c'était inaccessible, quoi. Et en fait, il s'est avéré que je suis tombé sur un livre d'un certain Jacques Vauclair, qui est là d'ailleurs, un livre, il s'appelait L'intelligence de l'animal, que j'ai trouvé en librairie. Et c'est un livre qui portait sur la psychologie comparée, qui parlait pour la première fois de l'intelligence des animaux. Ça allait de l'abeille au babouin, et qui traversait comme ça un peu toutes les recherches qui se menaient dans le domaine de la cognition animale. C'était un petit bouquin d'occasion que j'avais trouvé, et donc je trouvais ça fascinant. Donc j'ai contacté ce professeur qui a bien voulu me rencontrer, et un coup de bol extraordinaire, parce qu'il m'a dit, justement, ça tombe bien, je cherche un étudiant. Ah. Et donc lui est professeur de développement, il travaille sur le bébé. Et Jacques Vauclair était un des rares à faire de la primatologie aussi à côté, quoi, qui faisait vraiment de la comparaison entre psychologie du bébé humain et psychologie du babouin. Et donc il m'a dit, vous pourriez travailler avec moi sur le babouin. Alors du coup, ça a été évidemment, on s'est rencontrés et puis il m'a pris en stage. Moi je venais de botanique au départ, j'avais fait des études de biologie, donc c'était pas du tout forcément adapté à ce que j'allais faire avec lui, même si je rêvais d'étudier l'intelligence animale, ça restait paraissait inaccessible. Mais du coup, il m'a dit, vous n'avez pas fait de psycho, c'est pas grave, on va essayer, quoi. Et évidemment, le coup de foudre a été immédiat, il m'a amené à une station de primatologie du CNRS, et où je continue de travailler depuis d'ailleurs. Et donc ça a été le début d'une grande aventure qui ne s'est pas arrêtée. Hein. Ça fait 15 ans que je continue de travailler à observer nos cousins primates en captivité, mais également quand l'occasion se présente en milieu naturel. Et donc voilà.
Alors en captivité, tu les étudies où ?
Alors il y a plusieurs sites. Nous, là essentiellement, moi mon laboratoire, c'est un laboratoire de psychologie cognitive qui est basé à Marseille-Saint-Charles,
oui.
Et où il y a une équipe spécialement dédiée à l'étude de la cognition animale. Et donc on a un accès privilégié à des colonies pour observer des primates dans des colonies, des groupes sociaux qui vivent en parc, dans une station de primatologie du CNRS qui est patrimoine de Marseille. Donc nous on fait des allers-retours là-bas, on est très bien, j'ai même tellement bien à la campagne qu'on y a posé nos bureaux, nos étudiants, et du coup je continue d'explorer cette piste qu'a ouvert Jacques Vauclair en début 2000, qui est la piste des origines gestuelles du langage. Et c'est lui qui a, en tout cas en France, été le relais de cette théorie-là, qui stipule que peut-être, la parole humaine pourrait trouver des racines bien anciennes, très lointaines, dans la communication gestuelle de notre ancêtre, quoi. Le geste, les mouvements de main qu'on fait auraient eu un rôle, en tout cas, dans l'évolution, dans l'apparition de la parole. Donc ça paraît pas du tout intuitif comme ça, parce que les primatologues au départ, quand ils ont travaillé sur cette question, sur le mode de communication de nos chers cousins, ils se sont demandé, ils ont tout de suite regardé l'écrit, les sons qu'ils produisaient, pour voir si on pouvait trouver des points communs entre les sons des primates produits et la parole. Et donc c'est des recherches qui donnent toujours leurs fruits, hein. On découvre chaque année, pas nous, mais des collègues découvrent chaque année des propriétés particulières de leur système vocal. On a du mal à trouver vraiment des propriétés linguistiques. Contrairement à la parole humaine, on voit vraiment des différences, en tout cas, dans leurs cris et les mots qu'on produit. Et en parallèle de ça, des chercheurs se sont penchés sur les mains. On commençait à s'intéresser aux mains, déjà chez l'humain.
Oui.
On réalise que les mains sont très importantes quand on parle. On a les mains qui bougent quand on parle. Donc certains pensent d'ailleurs qu'il y a une intégration des mains et de la bouche dans le système langagier, dans le système linguistique, à tel point que certains pensent que c'est carrément le même système. Que ce soit de la parole ou du geste, ça pourrait peut-être impliquer exactement le même système. Et l'autre argument qu'on trouve dans la littérature scientifique, c'est justement ceux qui travaillent sur les bébés, dont mon ancien mentor, qui travaillait là-dessus, travaillait sur le bébé également, et montrait l'importance des gestes dans le développement de la parole. Chez le bébé, les premiers signaux intentionnels, dirigés vers une audience, le bébé utilise d'abord ses mains, bien avant d'être en mesure de faire du... Alors évidemment, avant, il babille, il fait des sons, mais tout seul, il fait pas forcément du son intentionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable encore à cet âge-là de faire des sons pour pouvoir communiquer intentionnellement avec les autres. Donc il fait comment ? Avec les mains. Donc on voit que les mains ont une importance, c'est une vraie fondamentale dans le développement du langage, c'est une vraie locomotive pour les apprentissages de la parole en fait. Pourquoi ? Parce que c'est les premières interactions sociales. Le bébé comprend très vite que quand il tend le bras vers un objet, les parents finissent par lui donner. Et ce sort d'interaction qui se met en place, qui fait que le bébé comprend l'importance du pointage. En général, ça rend les parents complètement hystériques, qui sont ravis de voir leurs petits pointer des objets. Donc, qu'est-ce que font les parents ? Ils nomment l'objet. Déjà, ils font des voix, « Ah, super ! Ah, ça, c'est la porte ! Eh oui, c'est la porte !» Et du coup, les parents, sans s'en rendre compte, en fait, sont en train de marteler, à faire des retours sociaux, des réactions au comportement de leur bébé, qui évidemment renforce le petit. C'est une sorte de renforcement très fort des parents pour communiquer, et tout en ayant un cours particulier, parce que les parents évidemment citent les mots. Et c'est un renforcement très important dans le développement du langage. Tout ça pour dire que le geste, déjà chez l'humain, c'est très important dans la structuration, le fonctionnement même du langage et de la parole. Et on voit bien, même chez... Il y a des langues qui sont entièrement gestuelles, il suffit de voir là, qui n'ont pas forcément besoin de son. On voit la langue des signes chez les sourds.
Chez les sourds.
C'est très importante. C'est-à-dire, vous coupez le son dans le développement, le langage arrive à survivre à ça, quoi. Le langage arrive à survivre et peut basculer entièrement sur une langue, comme n'importe quelle langue, mais une langue cette fois-ci uniquement sur les mains, qui se base sur les mains, les signes et les expressions faciales. Et donc dans cette histoire du geste, quand on lit cette littérature-là, on se pose des questions, forcément sur son origine, d'où vient ce système-là, cette parole et ces mains qui se gesticulent, d'où ça vient. Et c'est là où l'étude de nos cousins peut être utile. Pourquoi? Parce que nos cousins primates, on partage des ancêtres communs. Ancêtres communs, je ne sais pas, le chimpanzé et l'humain, par exemple, on s'est séparés dans l'évolution à peu près à 5 à 7 millions d'années. Avant, on était la même espèce. On sait qu'on était la même espèce à peu près à 5 à 7 millions d'années. Donc ça, c'est très important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve des points communs entre le chimpanzé et l'Homo sapiens, on peut peut-être proposer l'hypothèse que ce point commun-là aurait été finalement le signe d'un héritage. On aurait chacun hérité de cette propriété à partir du temps où on était la même espèce. C'est apparu au moment où on était ensemble, avant que ça se diverge. Donc c'est peut-être une trace de système, enfin en tout cas des propriétés de nos ancêtres communs. On parle d'ancêtres communs en fait. Donc si on trouve un point commun entre chimpanzés et humains, on va pouvoir retracer ce trait-là à peu près à leur ancêtre commun il y a 5 à 7 millions d'années. On peut dater comme ça l'émergence de certaines propriétés. Si on peut remonter plus loin, hein, si vous trouvez des points communs entre humains, chimpanzés et, je sais pas, babouins, là, l'ancêtre commun est beaucoup plus antérieur. On peut repousser facilement à 25 jusqu'à 35 millions d'années à peu près. Donc ça veut dire que c'est tout l'intérêt de travailler sur des espèces vivantes, nos chers cousins, parce qu'on est cousins. On peut remonter loin, on peut remonter jusqu'à l'abeille. Hein. On peut remonter jusqu'à la plante, parce que la plante, vous prenez un ficus ou un chêne, là on a des chênes blancs, vous prenez une feuille, vous allez regarder les cellules qu'il y a dedans, bah, comme par hasard, vous allez voir que la constitution de ces cellules est assez proche des cellules humaines, on va retrouver un noyau, on va retrouver l'intérieur de l'ADN fait avec des mêmes molécules. Donc tout ça montre à quel point on fait partie du vivant, l'Homo sapiens. On a longtemps cru qu'on était à part, mais en fait, ça c'est notre culture qui nous a inculqué ça. Mais disons que en biologie, on réalise qu'il n'en est rien. On a évidemment, on fait partie d'un continuum des organismes vivants sur cette planète. Et évidemment, nos cousins les plus proches sont évidemment les cousins primates, le chimpanzé, et puis plus loin le babouin, on peut repousser au singe après, etc. jusqu'au ver de terre, jusqu'à l'éponge de mer, jusqu'à la plante, jusqu'au ficus, sans problème jusqu'à l'atome. Donc on est tous cousins. Mais dans nos plus proches, là on s'est séparés, voilà, on a à peu près quelques scénarios. En tout cas, notre approche est assez simple. Notre approche, c'est de faire ce qu'on appelle de la psychologie comparée, c'est-à-dire comparer l'intelligence, la cognition entre les espèces. L'espèce humaine inclus, le primate humain, mais avec d'autres espèces, pour essayer de trouver, déceler des points communs, mais également aussi des différences.
Des différences.
Donc nous, notre dada, c'est le langage. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder certaines propriétés du langage dans les systèmes de communication de nos chers cousins pour voir si on partage des choses ensemble. Et c'est là où la piste du geste a révélé plein de surprises.
Donc la piste du geste, c'est une des pistes possibles, puisque la première, c'était le cri, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Voilà.
Alors après, il n'y a pas une seule origine, hein. C'est un peu ridicule, parce qu'on voit que le langage, la parole, implique beaucoup, beaucoup de propriétés, énormément de propriétés, et donc c'est une sorte de constellation de propriétés cognitives. Et donc, on ne peut pas tout ramener au geste non plus. Donc, il y a forcément des racines, il y a plein de racines. Il y en a qui viennent du geste, d'autres certainement du système cognitif, du système perceptif, de la façon dont on traite les informations, on se représente les objets, dans la façon dont on perçoit les informations du monde, comment on les traite. Bah, tout ça fait appel à des fonctions cognitives et qui vont être utiles aussi au langage humain. Et du coup, l'idée, c'est évidemment de pouvoir retracer un scénario des origines, c'est d'identifier quelles sont ses propriétés, qu'est-ce qu'on a besoin déjà pour faire du langage dans la recette de cuisine. Quel musicien on a besoin pour faire cette musique-là, cette musique du langage? Il faut quoi comme zikos?
Alors, quelles sont les propriétés importantes?
Alors, déjà, il faut partir de là. Parce que si on voit le langage comme juste une seule propriété indivisible, comme un bloc, effectivement, là, on est tous d'accord pour dire que c'est que Homo sapiens qui a ce bloc-là. Le langage, c'est spécifique à l'Homo sapiens. Si par contre on casse ce bloc et on veut identifier chacune de ses composantes, chaque musicien, si on imagine plutôt le langage non pas comme un bloc, une propriété, comme un seul musicien isolé, mais si on imagine que le langage, c'est plutôt la musique jouée par d'autres, par des musiciens. Si on voit le langage comme ça, on va réaliser que pour faire du langage, il faut des cuivres. Il faut les chœurs, il faut la guitare, il faut le tambour, il faut tout un tas d'instruments. Et nous, il faut imaginer que chaque musicien a un peu une fonction cognitive, quoi. Donc si on voit le langage comme ça, c'est là on voit que le modèle travailler sur l'animal, c'est très intéressant, parce qu'on réalise que certains musiciens ah ben, existent dans les jouent de la musique, en tout cas, dans la cognition de nos chers cousins. Et donc la question, c'est quels musiciens on partage et qui joue ensemble surtout. Parce qu'en fait, quand on recherche bien, quand on a cette approche-là, on réalise que quasiment toutes ces propriétés cognitives existent quasiment chez l'animal. Toutes les fonctions cognitives indispensables au fonctionnement du langage, pris une à une en fait, oui. Et elles existent dans le monde animal. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est unique à... Comment ça se fait que nous, on arrive à parler? Eh ben, donc l'hypothèse, c'est peut-être plutôt que ce qui est propre au langage humain, c'est plutôt comment ces musiciens jouent ensemble. Peut-être que chez l'animal, chaque musicien joue un peu de son côté et est incapable de travailler ensemble. Mmh. Donc peut-être que la spécificité du langage humain serait simplement cette musique jouée. Mais chaque animal joue ses propres musiques avec peut-être des musiciens en commun. Mais en tout cas, les musiques jouées sont évidemment différentes parce que font appel à des systèmes cognitifs différents. En tout cas, ce qui est intéressant, nous, c'est remettre l'animal au centre dans l'étude de ces questions. Et effectivement, si on voit le langage plutôt comme une sorte de constellation de musiciens, ah ben, du coup, la question change. Ça ne devient plus l'origine du langage, ça devient les origines du langage. Mmh. D'où viennent ces propriétés? Et surtout quand, dans l'évolution, ces propriétés ont commencé à travailler ensemble, à communiquer ensemble pour pouvoir faire, chez l'Homo sapiens en tout cas, le langage. Et donc là, voilà, donc ça c'est notre question. Notre grand nada, donc les propriétés, il y en a plein. Hein.
Alors, quelles sont les principales?
Il y a, je sais pas moi, l'intention, par exemple. Mmh. Déjà, là on parle, j'ai l'intention de faire passer un message, et donc c'est lié à un contrôle volontaire. Je veux faire passer un message à quelqu'un. Et donc, il faut avoir un but, du coup. L'intention, ça existe aussi dans le mouvement. Si je veux attraper là, ici, mon téléphone, je vois qu'il est trop loin, je vais essayer une première fois, je vois que ça marche pas. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Pour atteindre mon but, je vais recommencer. Recommencer une deuxième fois. Si ça marche toujours pas, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me déplacer. Je vais changer de stratégie. Je vais élaborer une nouvelle stratégie pour atteindre mon but. Et ça s'appelle la persistance. Je vais persister jusqu'à atteindre mon but. Mais imaginez ça qui existe très bien dans l'action. Hein. Ah ben ça, ça marche évidemment dans le langage. J'aurai un message à faire passer. Là, le but, c'est un message. Et tant qu'il n'est pas passé, ben, je vais le reformuler, je vais le répéter. Et pour m'assurer que le message est bien passé, ben, je vais être attentif à tous les signaux que mon interlocuteur va donner. Donc comme tu fais là, je te parle et tu hoches la tête. Ça, c'est des signaux que je capte. Déjà, je réalise que le message est bien passé.
Oui.
Par contre, quand je perds le contact visuel, quand tu regardes par exemple le téléphone et que je parle sans avoir le contact, ah, là, je me dis « Ah, le message ne passe plus ». Donc là, je suis un peu déstabilisé, donc je vais essayer de reformuler, récupérer ton attention. Donc tous ces petits ajustements très fins, ce sont des signes pour l'éthologue, pour les observateurs extérieurs, qu'il y a bien un contrôle intentionnel du message. Et c'est exactement ces propriétés-là qu'on va rechercher dans la communication de nos cousins. Et c'est exactement cette propriété-là qu'on a détectée justement dans la communication gestuelle de nos chers cousins.
Alors, y a-t-il d'autres propriétés importantes comme celle-là?
Eh bien, on voit que... l'intention, c'est un gros morceau. On voit qu'avec les gestes, les signaux, bah, pareil, les primates, ils vont répéter leur signal. Je ne sais pas s'ils veulent un objet, ils peuvent étendre le bras et répéter. Ou alors, si là, j'ai des babouins qui me menacent, je m'approche du groupe social, qu'est-ce qui s'est passé quand on est allé les voir? Bon, bah, y a un babouin qui peut taper la main sur le sol et menacer. Il voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il recommence. Mm-hmm. Il recommence, il voit que ça ne marche pas, bah, il va reformuler en changeant de stratégie. Il va se lever, il va secouer la tête, il va élaborer des nouveaux signaux gestuels. Donc, on retrouve exactement l'ensemble des propriétés de la communication intentionnelle, telles qu'on peut décrire dans le développement du langage chez les enfants. Et donc d'autres propriétés, ça va être quoi? Ça va être une propriété importante, c'est le référentiel. Référentiel, ça c'est intéressant, c'est la capacité qu'on a avec la parole à se référer à des objets de l'environnement, à des événements passés, futurs, présents, qu'on peut désigner évidemment étiqueté par des mots, genre la table, le téléphone, la montre. Donc ça fait appel... Du coup, tu sais exactement de quoi je parle. Ce sont des conventions partagées, des étiquettes. Mais je peux le faire aussi avec mes mains. Si je te pointe là la montre sur la table, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Si je te pointe là-bas le piano, tu vas pouvoir voir dont il s'agit. Donc ça répond aux mêmes propriétés dites référentielles du langage. C'est-à-dire cette capacité à attirer l'attention de l'autre vers un objet, un événement, une connaissance, quelque chose qu'on veut pointer justement. C'est d'où le mot pointage. Eh bien, on voit que le référentiel chez les bébés, bah, il se développe grâce aux gestes, grâce aux fameux gestes de pointage. Donc, on a regardé ça. Est-ce que les singes sont capables, les chimpanzés, les babouins, les gorilles, de faire des fameux signaux référentiels? Eh bien, ils y arrivent par les mains. Ils y arrivent par les mains en désignant comme ça des objets.
Ils désignent les objets avec les mains.
Donc, je t'ai montré une vidéo, par exemple, aujourd'hui, où c'était une femelle qui présentait des objets à son petit. Donc là, elle présentait, par exemple, elle prenait une petite croquette. Elle allait le présenter sous le nez de son bébé pour essayer d'attirer l'attention de ce petit vers cet objet. Donc ça, c'est typique de la communication référentielle qu'on croyait propre à l'espèce humaine, quoi, dans le langage. Donc ça, on le retrouve aussi dans le geste. On a plein, hein, on voit la capacité d'apprentissage, de nouveaux signaux gestuels. Ça, on voit qu'il y a une flexibilité. Le geste, c'est facile, c'est du mouvement. Le mouvement, c'est flexible. Le mouvement, c'est libre. Le mouvement, c'est facile à contrôler. Donc en fait, c'est une sorte de pâte à modeler malléable tout au long de la vie qui peuvent se pétrir, disons, cette pâte à modeler au fil des interactions sociales. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que les singes peuvent apprendre des gestes tout au long de leur vie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour eux dans le domaine des vocalisations. On voit que le répertoire vocal, même s'il est un peu flexible, hein, il reste quand même assez fixe. C'est-à-dire que le répertoire vocal change assez peu d'un groupe de babouins, par exemple, à un autre. Il change assez peu. Chaque vocalisation de communication est toujours émise dans le même contexte. Donc ça fait beaucoup plus appel à l'universalité des vocalisations humaines qui ne sont pas linguistiques, hein, comme les cris, les pleurs, les rires, qui sont aussi flexibles, qui varient d'un élève à l'autre, qui varient aussi au fil du développement. Mais toutes ces flexibilités qu'on a dans ce répertoire vocal-là, un peu universel, comme ces sons de surprise, de colère, on retrouve quand même des points en commun entre les gens. Et on retrouve un élément essentiel aussi, c'est l'émotion. Ces signaux-là de communication qu'on produit, que ce soit l'humain ou les primates, par la voix, sont plutôt associés à des états émotionnels, quoi. Là, tu auras beaucoup de mal à faire, à pleurer sur commande, par exemple.
Bien sûr.
Je te dis de pleurer, si tu n'as pas l'émotion qui est là, c'est difficile. Il te faut la petite étincelle pour y arriver.
Ouais.
Les comédiens, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Alors après, une fois que l'étincelle est là, tu peux exagérer, tu peux inhiber, tu peux accentuer. Donc il y a quand même un petit contrôle sur ces expressions de cette communication vocale. Mais c'est là où c'est très différent du langage, c'est que le langage, lui, permet de s'extirper de ces contraintes-là émotionnelles. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que le langage n'est pas influé par l'émotion. Le langage est énormément influé par l'émotion. On le voit bien dans la tonalité de la voix, par exemple, que selon mon état émotionnel, ça va se ressentir dans les mots, dans la musicalité. Si je parle comme ça, je vais pouvoir faire du langage tout en ayant...
J'exprime des choses.
Voilà, donc l'émotion peut être présente, mais je peux dire, en étant très triste, je peux dire le mot joie, contradictoire, sans problème. Et donc la question, c'est où on retrouve cette flexibilité-là chez les primates? Eh bien, comme par hasard, on le retrouve encore une fois dans la gestuelle, cette capacité à produire des gestes sur commande, à apprendre des nouveaux gestes tout au long de la vie. Cet effet pâte à modeler des apprentissages, on le retrouve dans le mouvement et dans le geste.
Alors, tu m'avais parlé aussi d'une autre propriété que j'aimerais que tu expliques, c'est la catégorisation.
Ah oui, alors moi je ne travaille pas là-dessus directement, et on ne retrouve pas forcément ça dans le geste. En tout cas, c'est une propriété cognitive qui est très importante dans le règne animal, parce que ça consiste à classer des informations qu'on perçoit.
Oui.
Je ne sais pas, un prédateur, une souris, si elle voit un chat par exemple, elle va pouvoir le classer dans la catégorie prédateur. Donc c'est une fonction très utile, adaptative pour la survie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas intérêt à se tremper de catégorie. Le chat, il ne faut pas qu'elle mette dans la catégorie sac de riz, quoi. C'est la catégorie nourriture. Donc, à l'inverse, voilà, la petite souris qui découvre son sac de riz va devoir le catégoriser dans l'élément nourriture. Donc, en fait, on voit que les animaux, le pigeon aussi, a l'air de catégoriser, c'est-à-dire classer des informations. Pourquoi c'est intéressant dans le système cognitif? C'est hyper important pour trier ces informations. Là, je vois, je ne sais pas si vous rangez jamais votre salon, vous aurez beaucoup de mal à retrouver votre passeport au moment où il faut partir, quoi. Et donc, si vous n'avez pas fait des catégories classées, sous-classées, même, donc vous allez pouvoir avoir ces systèmes d'emboîtement, de poupées russes ou d'arborescence que vous avez aussi dans votre ordinateur pour retrouver un fichier. Vous allez avoir créé un dossier papier administratif à l'intérieur duquel vous aurez un sous-dossier Et là, avec ce système d'arborescence, de classification, vous pouvez retrouver vos informations très rapidement. Mais le système cognitif, c'est un peu pareil. Il y a un intérêt à organiser les informations en catégories pour simplement y accéder rapidement. Et donc, en fait, on voit que dans le règne animal, c'est une fonction qui est très largement partagée dans le règne animal. Et la catégorisation, ben, c'est une composante aussi essentielle du langage. Sans la catégorisation, on aura du mal à parler, tout simplement parce qu'on aura du mal à accéder rapidement au lexique. Tout notre lexique, nos apprentissages de nos conventions sont organisés évidemment en système d'arborescence aussi, en catégorisation. Donc on va se servir, le langage c'est ça, il va faire jouer le musicien, catégorisation, qui est utile à d'autres fonctions. Hein. On l'a vu, la catégorisation c'est transversal, c'est pas propre au langage humain. Par contre, pour faire cette musique-là, pour faire du langage, il nous faut ce musicien-là, sinon ça marche pas. Donc c'est là, tu mets le doigt sur un point important, c'est là où l'animal est intéressant, parce qu'on voit que la catégorisation, le pigeon, le souris, le babouin, tout le monde en fait. Et pourtant, c'est un élément essentiel, un musicien essentiel à la petite musique du langage. Quoi. Et donc, on voit bien le caractère central de l'animal pour comprendre l'origine de chacune de ses fonctions cognitives et surtout comment elles ont commencé à s'intégrer dans des fonctions nouvelles comme le langage.
Bien, donc, si je veux bien résumer ce que j'ai entendu, rechercher l'origine du langage, c'est d'abord rechercher l'origine des propriétés. Premièrement, et de savoir à quel moment ces propriétés se sont mises à travailler ensemble pour constituer le langage.
Voilà, pour plus jouer d'autres musiques qui sont propres à chaque espèce. Mm-hmm. Chaque espèce a ses propres musiques, mais avec des musiciens qui sont forcément très proches d'une espèce à l'autre. Quoi. Mm-hmm. On n'a pas réinventé des musiciens. Donc la grande question, c'est ça. Il y a des obsessions dans l'approche comparative. Qu'est-ce qui est propre au langage humain? Est-ce qu'il y a des fonctions cognitives propres à l'espèce humaine, propres au langage humain? Donc ça, c'est une grande question qu'on n'a pas résolue.
Alors Adrien, tu as choisi un morceau de Daniel Varron. Est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ton choix?
Ah oui, Daniel Varron, ça fait partie des artistes dans mon panthéon à moi. Et quand je l'ai découvert, j'étais vraiment bouleversé à découvrir la musique qui s'appelle le Maloya. Daniel Varron fait partie des artistes des années 70 qui ont réhabilité cette musique de l'île de la Réunion, qui est une sorte de blues réunionnais, qui a été interdite dans les années quand l'île de la Réunion est devenue département français, je crois en 46. Oui. Ils avaient tellement peur des velléités d'indépendance qu'ils ont tout de suite interdit toutes les cultures ancestrales, parce que c'était une musique en fait jouée par les esclaves afro-malgaches, et donc c'était une musique de liberté, de résistance qui faisait partie de l'identité de l'île de la Réunion.
La demain qu'on m'a fait 20 décembre, ça n'a pas fait qu'à foutre. La paix pour gagner maintenant, ça n'a pas capoté. La paix pour gagner maintenant, ça n'a pas capoté. La demain qu'on m'a fait 20 décembre, on a occupé. La mère ça donne la main le maire et puis donne la main privée. La mère ça donne la main le maire et puis donne la main privée. La dis-moi qu'on m'a fait fin décembre, la fait grand comité. La prière les fêtes rayonnaises et de la liberté. La prière les fêtes rayonnaises et de la liberté. La dis-moi qu'on m'a fait fin décembre, mais je l'ai si balouté. A soi mon mouna, moi mon noir, fais-moi l'esclavage, nous fais-moi le temps ma gosse. Ne nous m'y plaît pas de moussa, m'y sont éclairage, pas d'un effet la mando.
Fais la mando. Tout à ce moment, testament, nous te
Très bien, eh bien, l'heure tourne. Je te remercie, Adrien, mais comme nous avons encore plein d'autres choses, j'espère que tu accepteras de revenir pour la suite.
Ah bah bien sûr, avec plaisir. Ouais.
Merci beaucoup,
Merci
Adrien.
Merci beaucoup.
C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.